Et il a dit, envoie Marc, il dit ça à Timothée, car il m'est utile. Marc avait fait des progrès. Et c'est cela que vous devez comprendre. Quelquefois, on a l'air d'être dur avec quelqu'un parce qu'on ne lui permet pas ceci ou on ne lui permet pas cela. Mais c'est parce qu'on veut son bien, il n'est pas encore capable de traverser cette épreuve. Alors, pour un temps, on le met de côté en attendant que le Seigneur, ayant agi et fortifié son caractère, l'ait trempé aussi pour qu'il puisse témoigner. Voilà ce qu'on peut dire à ceux qui ont pensé que Paul était trop sévère. Jean-Marc n'aurait pas résisté à la persécution que l'apôtre Paul et Silas ont enduré à Philippe. Donc, c'était mieux qu'il soit avec Barnabas. Maintenant, comme compagnon de voyage, il y avait donc Silas, il y avait Timothée, et il y avait qui? L'auteur du livre des Actes. Luc, n'est-ce pas? Puisqu'il dit « nous », n'est-ce pas? Au verset 10. C'est la seule mention que nous avons que Luc était en voyage avec eux. Maintenant, nous arrivons donc à notre chapitre 17e que nous allons lire ensemble. Après la ville de Philippe, qui est la première ville d'Europe qui a été évangélisée, l'apôtre a continué. Il est parti après être sorti de prison et avoir salué Lydie, qui est la première femme convertie d'Europe. Maintenant, si on vous demandait dans un mot croisé, puisque ma femme vous a passé les mots croisés qu'elle a fait, si on vous demandait dans un mot croisé de dire le nom de la première femme convertie en Europe, vous direz, mais qui c'est cette femme? Une femme convertie, la première convertie à l'évangile d'Europe, bien, c'est dans l'écriture, c'est Lydie. Alors vous pourriez mettre Lydie si ça colle, si c'est dans la grille. Alors nous lisons, vous avez vos Bibles et vous pouvez suivre, parce que c'est très important. Paul et Silas, maintenant on sait bien à qui nous avons affaire. Ce Paul qui était autrefois Saul de Tarse, un ennemi de l'évangile, un ennemi des croyants et qui voulait tous les exterminer. Et puis voilà qu'il s'est converti et qu'il souffre tout pour que d'autres viennent à la connaissance du Seigneur. Paul et Silas passèrent par Amphipolis, je vous ai montré cela, et à Polynie. Et ils arrivèrent à Thessalonique. Thessalonique, c'est une ville que j'ai souvent survolée. Elle s'appelle aujourd'hui Salonique. Et quand on va en Israël, avec l'avion d'Air France en passant sur la Méditerranée, eh bien, on passe au-dessus de Salonique, qui était Thessalonique en ce temps-là. Et là, il y avait une synagogue. On a vu qu'à Philippe, la colonie juive était si petite qu'il n'y avait pas de synagogue. Mais pourtant, le sabbat, eh bien, on se réunissait quand même, les juifs. Mais le premier auditoire que l'apôtre Paul a évangélisé à Philippe, c'était un auditoire de femmes, Donc, il ne faut pas mépriser les petits commencements. Il n'a pas dit, oh, ce sont des femmes, je passe plus loin. Non, il s'est arrêté, il s'est assis avec ces femmes, et puis il a eu cette joie de voir cette femme de qualité, cette commerçante, qui a écouté et son cœur a été touché par le Seigneur et elle leur a offert après sa maison. Paul avait cherché le lieu où on pouvait se réunir pour prier, et c'était au bord d'une rivière. Le Seigneur est partout. On peut se réunir en plein air. Vous l'avez vu, hier, on a eu notre culte d'adoration en plein air, dans la forêt, et si vous aviez les yeux ouverts, qu'est-ce que vous pouviez voir? Le lac. Hein? Et alors, dans ce cadre, là aussi, quand vous êtes un peu stressé, fatigué, vous vous souvenez d'un certain dimanche où vous écoutiez la parole, où vous apportiez au Seigneur votre louange, on chantait des cantiques, dans la forêt, ayant devant nos yeux le lac, même Framagog. Et ça nous fait du bien, ça nous retrempe. Mais à Thessalonique, la colonie juive était plus grande, de sorte qu'ils avaient une synagogue. Une synagogue, c'était comme une salle d'évangélisation. Une synagogue avait toujours la forme d'un rectangle, un peu comme cette salle, si vous voulez. Et puis, dans la synagogue, il y avait une armoire où se trouvait quoi? Les livres de la Torah. Pas seulement les 10 commandements, mais la loi, les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, mais en rouleau. Alors un jour, quand Jésus était venu à la synagogue de Nazareth, on lui a donné quel rouleau? Le rouleau d'Ésaïe. Alors il l'a déployé et il s'est mis à lire au chapitre 61 d'Ésaïe. Alors, quand il y avait des étrangers qui passaient dans une synagogue, des étrangers juifs, eh bien, selon la coutume, on demandait à cet étranger, est-ce que vous avez une parole à nous donner, une parole d'exhortation? On aimait bien entendre ce qu'un étranger qui venait donc de loin avait à communiquer à la communauté. Et c'est ce qui est arrivé, verset 2. Vous voyez comment on évangélisait. On cherchait les gens qui avaient au moins une croyance. Paul y entra, selon sa coutume, verset 2. Vous voyez, il avait pris sur lui de faire toujours ainsi. S'il y a une synagogue, il entrait dans la synagogue à tes risques et périls, hein, parce que le message pouvait ne pas être reçu. Et combien ça a duré? Pendant 3 sabbats, on se réunissait une fois par semaine. Hein, pendant 3 sabbats, c'était le samedi, il discuta avec les Juifs, mais d'après quoi? D'après ses idées? Non, d'après les Écritures. Alors, souvenez-vous bien que dans le Nouveau Testament, quand vous trouvez le mot « les Écritures », c'est de quoi qu'il s'agit? De l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, les Évangiles, les lettres de Paul, n'est-ce pas, n'étaient pas encore écrites. Et quand nous lisons ça, c'est Luc qui est en train de nous raconter cette histoire. Donc, quand vous lisez dans les Évangiles « les Écritures », c'est toujours une référence à l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, de ce temps-là, était divisé en 3 parties. La loi, qui était donc celle de Moïse, hein, mais c'était les 5 livres de Moïse qu'on attribuait à Moïse, et puis les psaumes et les prophètes. Il y avait 2 sortes de prophètes, qu'on appelle les prophètes antérieurs, c'est Josué, Juge, Ruth, c'est tous les livres historiques, hein. Et puis, ce qu'on appelle les prophètes postérieurs, c'est Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, et puis Ézéchiel, et vous alliez aux petits prophètes, Daniel, Osée, Joël, etc., jusqu'à Malachie. Voilà, ça, c'était les Écritures. De sorte que, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand le Nouveau Testament, que vous trouvez les Écritures, vous vous souvenez de cela. Quand Jésus disait, vous lisez les Écritures, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, ça veut dire, vous lisez l'Ancien Testament, hein, on n'appelait pas ça l'Ancien Testament, hein, mais vous lisez les Écritures, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et il leur disait, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Et puis, quand il a été ressuscité, aux 2 disciples d'Emmaüs, il est dit qu'il leur a enseigné dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. De sorte que, quand vous lisez l'Ancien Testament, qui devez-vous rechercher pour être vraiment intéressé? Jésus, n'est-ce pas? Chaque fois que vous trouvez l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était le Seigneur du Nouveau Testament, mais avant son incarnation. De sorte que toutes les Écritures rendent témoignage au Seigneur. Alors ça donne une toute autre force à notre lecture et un nouvel intérêt parce qu'on désire connaître le Seigneur. Paul y entrait selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Parce que les Juifs les connaissaient, les Écritures. Alors il avait un terrain où il pouvait les rejoindre. Il cherche toujours à pouvoir les rejoindre sur des choses qu'ils connaissent. Et il leur expliquait, verset 3, en établissant que le Christ, c'était donc le Messie que les Juifs attendaient, devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Mais ce qui était arrivé quand Jésus est venu, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu qu'il était le Messie? Parce que dans leur lecture du Nouveau Testament, ils avaient au fond mis de côté tout l'aspect des souffrances du Messie. Et comme eux-mêmes étaient opprimés par les Romains, ce qu'ils attendaient, c'était un Messie puissant, glorieux, politique, qui allait les délivrer du joug de l'oppresseur, du joug des Romains. Et ils avaient complètement oublié tous les passages qui montraient d'abord un Messie souffrant, qui venait pour régler d'abord la question des péchés et qui reviendrait plus tard pour établir son règne. Alors, au fond, ils s'étaient formés une idée du Messie et quand ils ont vu Jésus, doux et humble de cœur, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient, au fond, un général, hein, un grand chef et qui allait réduire et vaincre les Romains. Et comme Jésus ne se soulevait pas contre les Romains, alors ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont rejeté. Et c'est là ce que Paul voulait leur montrer. Il leur montre par les Écritures, mais vous n'avez jamais lu. Alors, lisez Ésaïe 53, par exemple, et vous voyez que c'est bien du Messie, le serviteur de l'Éternel, qu'il est question, mais qu'est-ce qu'il est dit? Il montera devant lui comme une faible plante, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat quand nous le voyons, n'est-ce pas? C'est un petit bébé, et pourtant on en a vu des beaux bébés ici, hein. Mais enfin, il n'avait rien de spécial. Il ne faut pas vous figurer que Jésus, enfant, avait une auréole sur la tête, comme on vous le montre, ou comme on vous l'a montré dans les images pieuses. Hein. Il n'y avait pas d'auréole sur sa tête. C'était un enfant comme les autres. Hein. Quoique alors, dans sa petite vie d'enfant, il était soumis, comme on le voit, à ses parents, et il grandissait en sagesse et en stature devant Dieu. Mais Paul, donc, insiste sur tous ces passages où on voit que Jésus devait souffrir. Et alors, il leur disait, « Et Jésus que je vous annonce, après avoir bien placé les vérités des Écritures qu'il connaissait, Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie, loin du Seigneur. » Alors, résultat de sa prédication, qu'est-ce que c'est? Verset 4, « Quelques-uns d'entre eux, vous voyez, ce n'est pas un grand nombre, hein, quelques-uns d'entre eux, donc parmi les Juifs, furent persuadés. Donc quand on prêche, il faut avoir une parole persuasive. Si on dit, je ne sais pas, peut-être ceci, peut-être là, non. Il faut avoir une autorité pour prêcher. Et que les gens sachent que ce que l'on prêche, on le croit, n'est-ce pas? Ce sont des vérités, ce sont des certitudes. Alors, quelques-uns furent persuadés, et ils se joignirent à Paul. Ils ont osé aller avec Paul et à Silas, qui était avec lui, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Eh bien, c'est ça qui est très frappant. Les Juifs, il y en avait peu qui se sont convertis au Seigneur, mais il y avait une grande multitude de Grecs. Ces Grecs étaient autrefois païens. Et ils avaient cherché la vérité, ils avaient cherché la lumière, ils en avaient assez de leurs idoles. Quand vous vous prosternez devant une statue qui a une bouche et qui ne parle pas, qui a des yeux et ne voit pas, qui a des oreilles et qui n'entendent pas, est-ce que vous pouvez être satisfait? Est-ce que c'est ça votre Dieu, un Dieu que vous devez porter sur un brancard? Un Dieu qui risque de se casser? Ou une déesse? Comme il y a quelques années, j'avais prêché pendant toute une année dans une église catholique, et puis un jour, après toutes ces prédications, le prêtre a oublié ce qu'il aurait dû comprendre. Il a dit à ses paroissiens, je voudrais faire une collecte parce que notre pauvre Marie, elle est toute décrépite. Alors, il voulait faire une collecte pour redorer Marie. Et puis, il la portait encore sur un brancard. Alors, les paroissiens ont dit, mais nous avons lu dans l'Écriture que ce n'est pas d'affaire des choses comme ça. Hein. Et évidemment, plusieurs sont sortis. Mais ce n'est pas moi qui les ai fait sortir. Mais la parole de Dieu a autorité et ils ont refusé de donner de l'argent pour redorer Marie. C'est pas ça. Nous croyons en Marie, mais elle est dans cette nuée de témoins qui nous entoure et qui sont vivants pour Dieu dans le repos en attendant la résurrection. Alors, ces Grecs avaient trouvé dans la religion juive quand même le vrai Dieu, un Dieu spirituel, le Dieu Esprit, et ils s'étaient convertis au judaïsme, mais ça ne leur avait pas apporté toute la lumière, tout ce qu'ils désiraient, et c'est pourquoi quand ils ont entendu Paul, ils ont dit, ah ça, c'est la vérité. Hein. Jésus apportait la vérité, tandis que Moïse n'apportait que la loi, les commandements, c'était bien, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que la loi est l'expression de la pensée de Dieu. La loi, c'est ce qui vous montre ce qui est mal. Mais si vous avez observé la loi, tu ne tueras pas, est-ce que ça suffit? Quand vous n'avez pas tué, vous n'avez pas encore aimé. Quand vous n'avez pas volé, parce qu'il est dit, tu ne déroberas pas. Quand vous n'avez pas volé, vous n'avez pas encore donné. Hein. Ça, c'est positif. Et puis, quand vous n'avez pas commis adultère, eh bien, vous n'êtes pas encore un saint pour autant, car il est dit que si dans nos pensées, nous avons convoité, nous sommes déjà sur le chemin de l'adultère. Alors donc, la loi n'est pas toutes les pensées de Dieu, c'est simplement un minimum hein, pour qu'il y ait de l'ordre sur la terre. Mais ce que le Seigneur nous a apporté, alors c'est vraiment la vie. Parce que même quand on connaît la loi, qu'est-ce qu'on en fait? Il est dit, tu ne commettras point adultère. Puis pourtant, les gens commettent adultère. Il est dit, tu ne déroberas point. Et pourtant, on dérobe au Québec, comme ailleurs. Hein. Je connais quelqu'un qui disait qu'il voulait laisser la lumière dans son appartement pour que les gens croient qu'il y avait quelqu'un dedans, hein, pendant qu'il viendrait au camp. On laisse une lumière parce qu'on a peur que l'on dérobe. Hein. Il y a des voleurs. Alors, donc, la loi est constamment transgressée. Alors, c'est pour vous montrer que ces Grecs avaient trouvé quand même, oui, plus que dans le paganisme, mais ils se sont tournés vers la prédication de Paul, car de la crainte de Dieu, ils sont arrivés à l'amour de Dieu. Et ce qui est frappant, il est dit, il y a eu beaucoup de conversions parmi qui? Parmi des femmes importantes, des femmes de qualité, des femmes qui savaient vivre et qui ont écouté. Et il y a eu beaucoup de femmes de qualité qui se sont converties. Alors que quelquefois, les Juifs arrivaient à tourner les femmes de qualité contre l'Évangile. Alors, on voit que les femmes peuvent être employées en bien comme aucun homme ne peut l'être, mais elles peuvent aussi être employées pour faire du mal. Et des fois, c'est pire que tout. Quelqu'un me disait qu'il n'aimait pas, quand il passait la douane, que ce soit une femme. Pour quelle raison? Elle est plus dure et puis elle va dans les valises avec ses mains, elles savent travailler les femmes, hein, et puis elles sentent, elles palpent tout, et puis elles peuvent facilement trouver si vous avez menti, si vous avez trompé. Hein. Alors on aime mieux aller vers un homme. Il est endormi. Enfin, on le croit. Alors, c'est très drôle. Mais c'est pour vous dire, il y a eu des femmes qui ont soutenu le Seigneur dans son ministère. Et Luc, qui avait écrit son évangile, eh bien, le savait. Il le dit dans le chapitre 8. Des femmes l'assistaient de leur bien. Verset 5. Mais les Juifs, alors c'est toujours la même histoire. Les Juifs, quand ils ont vu que tout ce monde se convertissait au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont eu? La jalousie. Est-ce que j'ai raconté dans le deuxième camp la petite charade de ma grand-mère? Non. Eh bien, oui, c'était une grand-maman que j'ai beaucoup aimée et qui m'a aussi élevé parce que ma mère a été souvent malade. Et alors, ceux qui l'ont entendu, parce que je crois que je l'ai dit alors au premier camp, vous n'allez pas leur aider, hein, mais c'est ceux du second camp trouvé. Elle disait, elle avait une petite charade, et puis elle disait ceci. Mon premier est un animal domestique. Réfléchissez à un animal domestique. Mon second est un animal féroce. Réfléchissez à un animal féroce. Mon troisième est un outil de charpentier et mon tout est un vilain défaut prononcé par un Suisse allemand. Ça, vous ne connaissez peut-être pas la prononciation d'un Suisse allemand. Alors, mon tout est un vilain défaut prononcé par un Suisse allemand. Je m'excuse, hein, mais non, toi, t'es pas Suisse allemand. Alors... Non, non, mais on a des regards comme ça, on se comprend. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que de la chalousie. Chat, l'animal domestique, hein, le loup, et puis l'outil de charpentier, la fille. Hein. Alors, elle disait, dans toutes ces affaires, ce n'est que de la chalousie. Hein. Quand on ne s'entend pas, si vous allez au fond des choses, c'est de la chalousie. Parce que les Suisses allemands, ils ont de la peine à dire « ja ». Hein? Alors, ils disent « c'est de la chalousie ». On se comprend. Ce n'est que de la chalousie. Je me suis toujours souvenu de cette histoire de ma grand-mère. Hein? Vous voyez que ça nous reste. Voilà. Alors, vous voyez, les Juifs jaloux. C'est pas beau, la jalousie. Est-ce qu'il y a de la jalousie chez vous, dans votre cœur, contre un frère, contre une sœur? De la jalousie. Oh, que c'est triste, hein? Ils ont été jaloux et ils prirent avec eux qui? Les braves gens. Des vauriens. Vous voyez que quand on est jaloux, quand on a un péché dans le cœur, on est prêt à prendre n'importe qui pour combattre le bien. Et on va chercher qui? Parce que des gens de bien ne font pas ça. On va chercher des vauriens. Ceux qu'on voudrait voir en prison, à certains moments, on est tout content de les prendre pour faire les choses que nous, on n'ose pas faire de nos propres mains. Ils ont pris des méchants hommes de la populace, ils ont provoqué des attroupements, ils ont répandu l'agitation dans la ville, et ils se rendirent à la maison de Jason, qui avait reçu l'apôtre Paul et Silas, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Et quand on vous amène vers le peuple, qu'est-ce que le peuple peut nous faire? On l'a vu, hein? Les Juifs pouvaient nous lapider, et les autres, nous battre à mort, de sorte qu'on restait mort, hein, tué. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, ceux qui les avaient reçus, et quelques frères, devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent contre tous les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Vous voyez que c'est la même accusation que l'on avait portée devant Pilate au sujet de Jésus. Quand Pilate voulait relâcher Jésus, eh bien, ceux qui voulaient sa mort ont dit à Pilate, le gouverneur romain, si tu relâches Jésus, tu n'es pas un ami de qui? De César. Hein? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Parce que Pilate a dit, est-ce que vous voulez que je crucifie le roi des Juifs, puisque On disait qu'il était roi, Jésus, mais Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde, hein, n'est pas d'ici-bas. Eh bien, voilà que ce qui se passe, c'est la même histoire. Si tu relâches Jésus, tu n'es pas un ami de César, et puis ici, on accuse les disciples de vouloir un autre roi que César. C'était tout autre chose. C'était donc des calomnies. Par ces paroles, verset 8, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux quoi ? Une rente, une caution. Une caution. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on demande toujours ? Une caution. On est en pleine actualité, c'est toujours la même chose. Si on vous relâche, quand on vous a accusé, on vous relâche moyennant une caution. Donc, vous pouvez bien comprendre que l'Écriture, c'est un livre de tous les jours. Et nous continuons. Alors, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit. Vous voyez que la nuit sert à quelque chose. La nuit, à Philippe, on chantait des cantiques, puis maintenant, c'est dans la nuit que Paul et Silas partent pour Béré. C'est une autre ville, plus loin. Et lorsqu'ils furent arrivés, est-ce qu'ils se sont cachés ? La première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller dans la synagogue le jour du sabbat, la synagogue des Juifs. Mais ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient, voilà ce que nous essayons de faire, c'est pourquoi j'ai l'air de vous faire la scie. Quand je vous dis, venez avec vos Bibles, mais pour quelle raison ? Pas parce que je veux vous endoctriner, mais pour que vous puissiez, dans vos Bibles, juger si ce que je vous enseigne est conforme à l'Écriture. Moi, je ne veux pas que vous disiez, oh, Monsieur Racine, il nous enseigne la bonne doctrine. Je veux que vous contrôliez si c'est vrai. C'est pourquoi que quelquefois, je lis un texte différent pour voir si vous réagissez ou bien si vous acceptez tout. Parce que des fois, dans des réunions, il y a une certaine atmosphère, puis alors on est euphorique, et puis il y a des réunions où les gens disent des alléluia continuellement, hein, pour tout, alléluia. Et puis, ils ne savent plus quand ils disent alléluia. Un prédicateur m'a dit qu'un jour, il était dans une réunion, et puis le prédicateur avait dit des choses très belles, alors les gens avaient hurlé « Alléluia !» Et puis tout d'un coup, le prédicateur dit « Le diable est puissant !» Les gens disent « Alléluia !» Alors, ils savent plus ce qu'ils disent, n'est-ce pas ? Vous êtes content que le diable soit puissant ? Mais il a été vaincu. Alors là, on pourrait dire « Alléluia !» Il a été vaincu. Mais il faut savoir ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Oh, il y a des choses drôles dans les réunions. Une fois, on prêchait sur l'histoire de Jonas. Hein. Et puis, il y avait là, dans l'auditoire, une personne qui tapait les clous, comme ça. Hein. Vous savez ce que c'est, taper les clous ? Dormait, hein, oui. Et puis, juste à ce moment-là, le prédicateur dit la parole du capitaine qui descend dans la cale, et qui voit Jonas en train de dormir dans la cale, puis qui lui dit « Que fais-tu là, dormeur ?» Et il y a le bonhomme qui dormait, qui dit « Quoi ?» Il a cru que ça s'adressait à lui. Hein. Il dit quoi ? Oh oui, il y a des drôles de choses. Ou bien on fait un lapsus. Nous irons ce soir dans les épaules de Saint-Pitre. Dans les épîtres de Saint-Paul. Hein. Et le prédicateur, un peu fatigué, il dit, nous allons lire ce soir dans les épaules de Saint-Pitre, dans les épîtres de Saint-Paul, hein, il change, hein. Ou bien je vais vous lire la parabole des brebous et des biques. C'est des choses qui sont arrivées. Un grand prédicateur de Paris, le pasteur Beugner, eh bien, il a fait aussi un de ses lapsus, on en parlait dans sa famille, il devait parler de la réforme et de deux hommes qui ont été très connus dans la réforme, c'était Calvin et Luther. Et il a dit Calvin et Luther. Mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je vais vous parler de Calvin et Luther. C'était de Luther et Calvin. Mais vous voyez, Quand on est fatigué, peut-être que vous en avez entendu de moi, j'ai peut-être l'idée. Si vous écoutez les cassettes, vous entendrez me dire, oh, ben, celui-là aussi il se fatigue. Bon, mais ça fait rien. On continue quand même, puis on s'aime, on se supporte, et puis on se pardonne. Mais ce que je vous dis quand je vous demande de prendre vos Bibles, c'est que vous deveniez des chrétiens comme ces Juifs de Bérée. Vous voyez, ils étaient plus nobles, verset 11, que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors ça vous donne des convictions. Moi, ça ne m'intéresse pas que vous pensiez comme moi. Ce qui m'intéresse, c'est que vous pensiez comme Jésus pensait, comme la parole de Dieu le veut. Verset 12. Plusieurs d'entre eux, donc, à Bérée, crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, donc des anciennes païennes, et là aussi, ce sont des femmes de distinction, ce n'est pas des femmes du peuple seulement, mais des femmes de la haute société, et beaucoup d'hommes, enfin les hommes, sortent du trou. Il y a eu des hommes qui sont convertis, et il est dit qu'il y en a eu beaucoup à Bérée. Mais, quand Dieu bénit, qu'est-ce qui arrive? Les Juifs de Thessalonique, vous voyez, ils ne restent pas à Thessalonique, ils sont fanatiques. Et quand ils ont su que Paul annonçait aussi à Bérée, quoi? La parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit lapidé une seconde fois, ça suffit de l'être une fois. Et Silas et Timothée sont restés à Bérée. Hein. Mais Paul, ils l'ont conduit au bord de la mer. Pourquoi? Pour le noyer? Pour qu'il puisse partir avec un bateau. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Alors Paul est arrivé seul dans la ville grecque d'Athènes, qui avait été une grande capitale politique au temps d'Alexandre le Grand, mais qui était restée alors une capitale intellectuelle, la capitale de la sagesse humaine, une capitale universitaire. Il y avait là de grands philosophes, et la vie universitaire était très poussée. Alors, Paul était seul. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est seul? Bon, il s'est dit, aujourd'hui, je peux faire un peu de tourisme. Alors, il n'avait pas encore de réunion, de prédication. Il est allé faire un petit tour dans la ville, hein, le tour de ville. Pendant qu'il les attendait à Athènes, il a senti son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Partout où il allait, dans toutes les rues, il trouvait des statues et des idoles, en argent, en or, en bois, en fer, tout ce que vous voulez. Et alors, forcément, il voyait des gens qui se prosternaient devant ces statues, qui avaient une bouche, comme le dit le psaume 15, et qui ne parlent pas, qui ont des yeux, qui ne voient pas, et qui ont des oreilles qui n'entendent pas, des mains qui ne touchent pas, des pieds qui ne marchent pas. Alors, il s'est entretenu dans la synagogue aussi, où il y avait une synagogue à Athènes, avec les Juifs, parce que dans cette ville, il était peiné de voir toute cette idolâtrie. Et il a rencontré là, non seulement des Juifs, mais des hommes qui craignaient Dieu, donc des païens convertis. Et il s'est entretenu aussi sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Et cette place publique, c'était un marché qu'on appelait, comment? L'agora. L'agora, c'était un marché où on vendait de tout, et puis où on aimait aussi à se réunir et à discuter. C'était un lieu de rencontre. C'était pas au bord d'une rivière, là. C'était en plein marché. Verset 18. Quelques philosophes, ces gens qui pensent beaucoup et qui ont des doctrines particulières, il y en avait deux genres en particulier. Les épicuriens et puis les stoïciens. Donc, deux sortes de philosophes. Et l'apôtre Paul a parlé avec ces philosophes. Les épicuriens, c'était les disciples de qui ? D'Épicure. Et Épicure, c'était un homme qui avait vécu en l'an 342, enfin il était né en 342, et il a vécu jusqu'en 270 avant Jésus-Christ. Donc, c'était bien, bien ancien déjà. Et alors, la doctrine d'Épicure, c'était le matérialisme. Et il plaçait le bien suprême dans la jouissance. Il n'y avait qu'une chose qui était bien, selon lui, eh bien, c'était de rechercher le plaisir. Recherchons le plaisir, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Il ne croyait pas à la vie éternelle, à la vie par-delà la mort, de sorte qu'il n'y a qu'un temps pour vivre, c'est aujourd'hui. Et alors il n'y a qu'un temps pour jouir avant d'aller dans le tombeau, c'est maintenant. Et qu'est-ce que vous voyez dans les films d'aujourd'hui, viens jouir avec moi, des trucs comme ça, hein. Il n'y a que cela qui compte, la jouissance sexuelle, c'est cela qui compte, et c'est le désordre partout. Donc, c'est vieux, ces histoires-là. Alors, c'était donc la doctrine d'Épicure. Et ils étaient opposés forcément à l'Évangile, parce que l'Évangile prêchait la sanctification, la séparation du mal et du monde. Puis, alors, les stoïciens, c'était les disciples de Zénon, qui, lui, était né vers 340 avant Jésus-Christ. Alors, pour eux, eh bien, les stoïciens, c'était des panthéistes, c'est-à-dire qu'ils disaient que Dieu, bien, il était partout, et il était, c'est nous qui sommes aussi Dieu, tout est Dieu. Vous aimez le fromage? Ben c'est Dieu le fromage, hein. Vous pouvez le manger, tout est Dieu, mais ça, et c'est un peu vrai, on adore tout, hein. Il y a des gens qui adorent le fromage, hein. Ils vous le disent, vous leur dites, vous aimez le fromage? Oh j'adore. Vous aimez le chocolat? Oh j'adore. Vous aimez le cinéma? Oh j'adore le cinéma. Vous aimez la danse? Oh j'adore la danse. Hein. Ouais. Ils adorent tout, n'est-ce pas? Mais ils n'adorent pas Dieu, il n'y en a qu'un qu'on n'adore pas. Or vous avez pourtant tous appris que le premier commandement, c'est un seul Dieu, tu adoreras. Hein? Et c'est vrai ça, un seul Dieu, tu adoreras. Mais les stoïciens, ce qui les caractérisait aussi, c'est que pour eux, eh bien, il fallait supporter la douleur par ses propres forces. Hein? C'est ce qu'on appelle des stoïques, ils étaient stoïques. Hein? Vous avez un rhume, vous dites, non, j'ai pas le rhume. Ça coule? Non, ça coule pas. Bon. Vous vivez dans l'illusion. Vous êtes malade avec la fièvre? Non, je n'ai pas la fièvre. Vous avez mal au dos? Non, je n'ai pas mal au dos. N'est-ce pas? Alors, on est stoïque. Et vous perdez votre femme, on ne pleure pas. On serre les dents. Et c'est tout. Oui, mais c'est ça, le stoïcisme. Vous voyez, Job, il n'a pas été stoïque dans son épreuve. Hein? Pas du tout. Quand il a su que ses 10 enfants étaient morts, il s'est jeté dans la poussière, et puis il a pleuré, il a déchiré ses vêtements, il n'a pas été stoïque. Dieu ne nous demande pas d'être stoïque. Dans les épreuves, on peut pleurer. Alors, c'est simplement pour vous dire le genre de personnes que Paul a rencontrées lorsqu'il voulait rendre témoignage à Athènes. C'est comme aujourd'hui. Hein? Vous avez des gens qui vivent dans l'illusion et qui vous disent on va s'en tirer de toute manière, et puis d'autres alors qui disent ben, de toute façon, puisqu'on ne va pas s'en tirer, eh bien aujourd'hui on est encore en vie, on va jouir le plus possible. Je vais crever demain, eh bien je veux bien manger aujourd'hui. Hein. Et voilà, je veux prendre tout ce qui passe aujourd'hui pour me satisfaire. Voilà les gens que l'apôtre Paul devait rencontrer à Athènes. C'est pour vous montrer que ce n'était pas plus facile de son temps d'annoncer l'Évangile qu'aujourd'hui. Et oui, quelqu'un disait quelque chose? Alors, on était à quel verset? Oui, alors, Oui, au verset 18. Hein. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que résurrection, c'était le nom d'une divinité, hein, puisqu'ils parlaient de la résurrection. Or, eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que résurrection? Et puis, ils parlent d'un Jésus. Alors, c'est peut-être une divinité étrangère. Ils ne voyaient pas que ce soit Dieu. Verset 19, ils ont quand même le désir d'apprendre. Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage. L'Aréopage, c'était comme le Sanhédrin à Jérusalem. C'était le tribunal, au fond, grec, où les autorités aussi se réunissaient. Et ils voulaient faire, au fond, une enquête et savoir ce que c'était que cette doctrine qu'ils prêchaient. On l'a conduit donc devant l'Aréopage, c'est comme vous diriez devant la Chambre des communes, et ils ont voulu qu'il dise quelle était cette doctrine qu'il enseigne. Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Eh bien, quand on annonce l'Évangile, pour certains, ce sont des choses étranges. Est-ce que vous l'avez déjà réalisé? Quand vous parlez du Seigneur, pour des gens qui sont même baptisés, ce sont des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Mais pour savoir ce que cela peut être, le mieux, c'est de montrer ce que nous sommes. Parce que si c'est seulement des théories, les gens ne nous croient pas. Mais s'ils ont été impressionnés par notre vie, alors ils peuvent savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens, verset 21, et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles, des drôles d'attachés à la télévision. Ils passaient leur temps à dire ou à écouter les nouvelles et ils n'avaient pas la télévision. Alors, verset 22, Paul se tient debout au milieu de l'Aréopage. Et vous avez un des discours de l'apôtre Paul. Au travers du livre des Actes, nous en trouvons plusieurs de ces discours. Un discours qui est fait à des Juifs, puis maintenant, c'est un discours qui est fait à qui? À des païens. Alors, c'est intéressant de voir comment il va s'y prendre pour parler à des païens. On a vu comment il s'y prenait pour parler à des Juifs. Il parle comme Étienne, d'abord, de tout ce qu'ils connaissent. Et on l'écoute, hein, parce qu'on est d'accord. On part d'une chose sur laquelle on est d'accord. Il faut toujours, dans une discussion, rechercher le minimum. Le minimum d'accord. Puis vous construisez sur ce minimum. Parce que si vous commencez tout de suite par créer un fossé, en disant les doctrines fausses qu'ils ont, c'est fini, on ne discute plus. Hein. Ou alors c'est la bagarre. Mais si vous partez de quelque chose où vous savez qu'ils seront d'accord, vous pouvez construire. Hein. Vous pouvez construire. Et c'est ce que Paul fait. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Oh, il ne nous juge pas. Hein. Eh oui, parce que l'homme est un animal religieux, au fond. Il a besoin d'une religion. Mais une religion, c'est pas encore avoir la vie. Mais vous voyez, l'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse que Jésus, lui aussi, quand il doit faire même des reproches, il commence toujours par dire quelque chose de positif. Aux sept églises, il leur dit d'abord, je connais tes œuvres. Et puis, il dit des choses bonnes d'abord. Mais, ensuite, j'ai contre toi. Mais il parle toujours d'abord de ce qui est positif. Et nous devons avoir un esprit positif si nous voulons avoir une conversation avec quelqu'un. Et alors, il leur dit, je vous trouve extrêmement religieux. La religion, c'est donc avoir une relation avec Dieu. Ils en ont partout, dans des divinités, ils en avaient partout, des idoles. Alors, ils sont extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, verset 23, et en considérant les objets de votre dévotion, sont des dévots, J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Alors, vous voyez, il avait bien observé, et voilà qu'il va partir de cela. Eh bien, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui-là que je vous annonce. N'est-ce pas merveilleux, ça? N'est-ce pas? Alors, vous voyez qu'on peut retirer quelque chose d'instructif pour nous dans le livre des Actes pour savoir comment atteindre, comment parler à des gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous ou la même foi que nous. À un Dieu inconnu, eh bien, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors donc, ben, on va l'écouter. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point dans des temples faits de main d'homme, parce que c'était une ville pleine de temples, Athènes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, ça c'est une grande vérité qui nous empêche d'être racistes, n'est-ce pas? Parce que si votre peau est noire, vous avez quand même le sang qui vient d'un seul sang. Hein. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui a déterminé où l'on habite. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez, prenez bien ce verset. Le Seigneur n'est pas loin de chacun de nous, même des païens. C'est ce que Paul avait déjà dit aux païens de la ville où il a été lapidé, où on l'avait pris d'abord pour un dieu. Il avait dit, mais non, je ne suis qu'un homme, et ne faites pas de nous des dieux. Et il leur avait dit que c'était Dieu qui leur donnait la pluie, les saisons fertiles, et qui remplissait leur cœur de joie. En lui, donc, verset 28, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Parce que si Dieu ne pensait qu'à lui-même, puisqu'il retirait son esprit et son souffle, qu'est-ce qui arriverait? La mort. Toute chair expirait ensemble. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Vous voyez, il est capable de leur citer un de leurs poètes. Alors ça les intéresse. Ce n'est pas le premier venu qui leur parle. Il connaît même les poètes grecs. Et ce poète avait écrit que de lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. Et je me souviens qu'un jour, dans un avion, au-dessus du Mont Blanc, je revenais de Saïgon, donc de l'Indochine d'autrefois, et puis on m'a invité d'aller dans la cabine des pilotes, parce que c'était 20 heures d'avion, puis j'avais eu crise de colique néphrétique dans l'avion. Alors on était très gentils avec moi. Puis quand on est arrivé sur le Mont Blanc, ils m'ont demandé, ils sont venus me chercher pour que je voie cela, de la cabine de pilotage. Puis l'avion était plein derrière de gens qui venaient d'Asie. Et quand j'ai vu ces trois hommes qui étaient là au poste de pilotage, j'ai entendu, c'est la race de Dieu. Nous sommes sa race. Voler là à cette altitude, après 20 heures, et puis l'avion tenait, on allait descendre sur Paris. Et j'ai pensé à ce verset, nous sommes la race de Dieu. Les hommes sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est vraiment qu'on est la race de Dieu, n'est-ce pas? Mais on est aussi capable de faire les choses les plus affreuses, quand on est dominé par Satan. Ou vous êtes employé par Dieu, ou vous êtes employé par Satan. Alors, vous voyez, nous sommes la race de Dieu. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. La divinité n'a rien à faire avec l'industrie des hommes. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient ces statues? Oui, mais en même temps, c'était devenu un commerce, n'est-ce pas? On fait toutes ces statues, est-ce qu'on les donne? Non. N'est-ce pas? On les vend, ça fait de l'argent. Hein. C'est toute une industrie. Je me souviens une fois que je suis allé à Lourdes, vous connaissez Lourdes au moins de réputation, j'ai reçu un message du préfet qui me disait « Ne touchez pas à Lourdes dans votre prédication, parce que c'est notre industrie. On est un département défavorisé et ce qui fait vivre Lourdes, c'est les pèlerinages qui viennent avec tous ces trains de malades. Il y a les hôtels, il y a les marchands de cercueils, par beaucoup de gens meurent dans ce voyage et on les rentre de nuit, n'est-ce pas? Mais donc c'est tout un commerce. Et puis il y a l'eau de Lourdes, hein. On vous vend de l'eau de Lourdes. Et puis quand vous passez à la douane, comme vous avez peut-être acheté, plutôt que de l'eau de Lourdes, une bouteille de cognac, mais vous l'avez mis dans une bouteille d'eau de Lourdes, et puis quand la douane est là, et vous dites quelque chose à déclarer, de l'eau de Lourdes, bon, donnez-moi le flacon, puis il ouvre, il sent, c'est drôle, ça sent le cognac, il dit, ben, c'est un miracle. Oui. Tout se passe, c'est un nouveau miracle. Hein. L'eau de Lourdes s'est échangée en cognac. Mais là, c'est un mensonge. Hein. Mais on a cru que ça pourrait passer de cette façon-là. Vous savez aussi les valises double fond hein, pour y mettre la drogue. Tout est bon. Mais vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà la Bible. Voilà pourquoi j'aime la Bible. C'est le livre le plus moderne. Je vous dis, dans la Bible, il y a les dernières nouvelles. Il y a plus que les dernières nouvelles. Souvenez-vous toujours de cela. Alors ne vous épouvantez pas en entendant tout ce que vous entendez à la radio ou tout ce que vous voyez à la télévision. Ce sont des choses qui doivent arriver. Alors reprenez votre Bible et puis vous dites, non, je veux me fortifier dans la parole. Alors, Dieu n'est pas dans cette industrie-là, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui est cet homme? Jésus. Alors vous voyez comme l'apôtre progressivement est arrivé à Jésus, n'est-ce pas? Il y a là toute une dialectique extraordinaire. Alors que nous pouvons imiter aussi. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient. Quand on est mort. Hein. Et puis les autres dirent, ben nous t'entendrons là-dessus quand? Une autre fois. Ne dites pas, on reviendra à un autre camp. C'est peut-être le dernier. Vous comprenez? C'est aujourd'hui le temps favorable. Il ne faut jamais dire une autre fois, hein. On y pensera une autre fois, parce que tu n'auras peut-être pas le temps d'y penser. Il n'y aura pas d'autre fois, faites attention à ça. Nous t'entendrons une autre fois. Ça veut dire, je n'ai pas rejeté, mais quand je serai moi intéressé, ben, je t'écouterai. Non, ça sera peut-être trop tard. Puis vous savez, si on ne veut pas de nous, on va plus loin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont faim et soif. Alors, on a des appels, on ira où Dieu nous appelle. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. On ne peut pas s'imposer. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont attachés à lui? Parce qu'il leur avait fait aimer le Seigneur. Il n'avait été qu'un instrument. Mais Paul n'essayait pas qu'on s'attache à lui. Il essayait d'attacher les gens au Seigneur. Mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être reconnaissant pour l'instrument que Dieu a pu employer. Mais, comme Jean, il faut toujours dire, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Hein? Et parmi eux, ceux qui sont attachés à lui, qu'est-ce qui s'est converti? Denis l'Aréopagite. Donc, un des juges s'est converti. Un homme important de l'Aréopage a été touché. Donc vous voyez que Dieu peut toucher n'importe qui. À Philippe, il a touché une commerçante, une femme, Lydie. Et là, il a touché un demi-Aréopagite. Donc il y a eu des fruits quand même. Et ensuite, une femme nommée Damaris. C'est beau. Et cette femme, Damaris, il y en a eu d'autres avec lui, et d'autres avec lui. Alors, il y a deux noms qui sont donnés, Denis l'Aéropagite et Damaris. Alors, il semble qu'à Athènes, il n'y a pas eu beaucoup de fruits quand même, hein, mais ça ne fait rien, on prêche, et c'est le Seigneur qui produit des fruits. Et l'on ne se décourage pas. Mais quelqu'un qui sème, eh bien, il ne doit pas s'attendre avoir le même jour peut-être des fruits. Hein. Quand vous avez mis la semence, il faut bien tasser la terre sur la semence. Il ne faut pas les gratter le même soir pour voir si ça germe. Ce que font souvent les prédicateurs, ils veulent tout de suite, ils ont prêché pendant 20 minutes ou une demi-heure, et puis, voilà, tout de suite ils veulent faire l'appel, maintenant on veut recueillir. Hein. Mais il faut laisser la semence germer. Parce qu'alors, si je veux recueillir tout de suite, hein, alors, je m'arrange à faire peut-être une certaine musique qui berce l'auditoire, et puis on dit que si vous vous donnez au Seigneur ce soir, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous serez heureux, et puis alors, bon, pourquoi pas, ça ne peut pas me gêner. Alors on lève la main, ou bien on s'avance, on signe tout ce qu'on veut, puis après ça ne tient pas. Hein. Alors il faut faire très attention à ça. Parce que si nos prédications vaccinent les gens contre une vraie conversion, ça ne vaut pas la peine. Il faut que réellement le Seigneur ait travaillé dans un cœur. Et ce n'est pas nous qui mettons la patte, c'est le Seigneur qui opère et qui agit. Je me souviens toujours de mon père quand on semait des haricots en rond, là j'étais avec lui, puis il nous disait comment mettre les graines, hein, puis après bien retourner, couvrir, et puis pas y aller le lendemain pour gratter. Alors, mais on est intéressé, qu'est-ce qui va sortir, parce qu'on ne voit plus rien. Puis tout à coup, 15 jours après, il y a une petite tige qui sort. C'est ça qui est merveilleux. Mais encore, il ne faut pas y toucher, il faut la laisser croître. Alors, si vous semez, vous savez que vous ne verrez pas vous-même le fruit. J'ai rencontré l'année dernière en France un jardinier qui me disait, tu sais, j'ai fait son mariage autrefois, alors il a eu 5 enfants, on a eu un de ses enfants ici au camp, il me disait, tu sais Gaston, je viens de planter une noix pour avoir un noyer, mais je sais que je ne mangerai pas les noix, mais il y aura peut-être mes arrière-petits-enfants qui en mangeront, hein. Mais il faut qu'un jour quelqu'un ait planté et il se met pour qu'il y ait un jour du fruit. Alors, on plante dans l'espérance qu'il y aura du fruit. Puis, si on moissonne, qu'est-ce qu'on se dit? Je moissonne là où je n'ai pas semé. Il y a un autre qui a semé avant moi. Puis, moi, j'arrive là. Puis, il y a toute une moisson. Alors, je n'ai pas à me glorifier en disant, vous voyez, comme je suis un bon prédicateur, là, il y a des multitudes qui se convertissent. Non, je dois penser que j'ai été la dernière, le dernier qui a mis la dernière goutte, qui a fait déborder la coupe. Mais d'autres avaient travaillé. Alors, on donne toute gloire et toute louange au Seigneur. Et comme ça, on ne crée pas des jalousies. C'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Bien, vous voyez, la pluie a cessé. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce bain que nous venons de prendre dans la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole est comme une eau qui nous lave, qui nous purifie. Nous avons tant de pensées qui ne sont pas les tiennes. Nous avons tant de misères qui doivent être nettoyées dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous voulons nous laisser faire par toi. Fais ton œuvre, façonne-nous par ta parole. Lave-nous, purifie-nous par cette parole. Toi qui as donné ton sang pour expier nos fautes et qui nous as donné ta parole pour nous garder purs. Nous te demandons ta bénédiction sur la fin de cette journée et de tout conduire pour le bien suprême des enfants, des petits, comme des grands. Nous t'apportons aussi les 2 enfants malades. Nous te demandons de poser tes mains bénissantes sur eux et de les guérir de leur amygdalite. Tu es puissant pour le faire, et nous comptons sur toi, sur ta grâce et sur ton âme. Amen.